Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la vertu de force est une vertu morale, c'est-à-dire qu'elle nous permet de ne pas être arrêtés dans la pratique des vertus. La vertu de force nous fait gagner le ciel, or nous gagnons notre ciel par la fidélité à Dieu. Il est important de considérer cette question, parce que la vertu de force est une de celles sur lesquelles saint Thomas est le plus bref. C'est une vertu assez simple et par conséquent, on passerait facilement à côté de sa richesse et de son importance. Parce que rappelez-vous que la vertu de force vient avant la vertu de tempérance. C'est donc qu'elle est plus importante que la vertu de tempérance. Et donc elle a une richesse. Très souvent, on passe à côté de cette richesse parce que on imagine soit la force physique, la force morale mais au sens physique, je vais vous donner un exemple, soit la force utile. On imagine trop souvent la force physique. Par exemple, le soldat qui, sur le champ de bataille, doit être amputé d'une jambe, prenons cet exemple, et qui va serrer les dents sans crier. Ou l'enfant qui va chez le dentiste et à qui on dit « sois fort, sois un homme », c'est-à-dire « ne crie pas, ne pleure pas ». Le fait de pouvoir subir un deuil et de ne pas en être affecté, etc., etc. Mais ça, c'est une force qui n'est pas strictement morale. C'est une force qui est encore trop tournée vers des considérations d'ici-bas. Lorsque saint Augustin eut la douleur de perdre sa mère, il en pleura et il en pleura beaucoup. Et il se justifia en disant qu'il n'y avait pas de honte à pleurer une si grande mère qui lui avait fait tant de bien. Et saint Augustin, en pleurant sa mère, n'a pas été faible. C'est pas ça, la faiblesse ou la force. De même, celui qui serre les dents pour ne pas crier fait un acte de force, mais un peu comme les athlètes qui sont capables de dominer la douleur pour gagner le prix et monter sur le podium. La force, la vertu de force, est une vertu qui nous fait effectivement surmonter la douleur, enfin ne pas craindre la douleur, mais en ce sens que la douleur, la crainte, la peine, ne vont pas nous arrêter dans notre poursuite du ciel. Le but, c'est le ciel. Et peu importe de pleurer ou non, peu importe de crier ou non, ce qui compte, c'est malgré la peine d'être fidèle à Dieu. La vertu de force est une vertu morale, et nous allons le voir avec le don du Saint-Esprit, qui nous rend fidèles à Dieu, malgré les obstacles, malgré les craintes. On voit également trop souvent la force sous son aspect utilitaire. À savoir que la force se légitimerait par les résultats qu'elle obtient. Par exemple, Charlemagne fut un homme fort. Grâce à cela, il sauva la chrétienté de multiples périls, le péril des Lombards, le péril des Maures en Espagne, le péril des Saxons dans le nord de la France. Et Charlemagne traversait la France à cheval pour défendre la chrétienté contre les Maures en Espagne, puis après ça, il se rendait en Saxe contre les Saxons, puis il fallait qu'il se rende en Italie contre les Lombards, etc., etc. Effectivement, il a fait preuve d'une force militaire extraordinaire. De même, ce maréchal de France, tu trembles Carcasse, mais tu tremblerais bien plus si tu savais où je t'emmène. Mais ce n'est pas parce que Charlemagne a ainsi construit la chrétienté et qu'il l'a défendue contre les barbares et puis surtout contre les faux cultes, les faux dieux. Ce n'est pas pour cela, c'est pas cela qui rend sa force légitime. Ce qui rend sa force légitime, c'est sa fidélité à Dieu. Et dans le cas de Charlemagne, cette fidélité est une fidélité de foi, de témoignage de la foi, de mettre la foi en lumière, de faire que la foi éclaire tout. Mais si on légitime la force uniquement par le résultat, alors où est l'intérêt du martyr? Vous allez me dire, le martyr est un témoignage, et ceux qui voient ce témoignage en profitent pour être solides à leur tour. Mais c'est une explication dans laquelle on recule pour mieux sauter. Parce que vous avez des martyrs dont le témoignage à la face des anges n'est pas connu des hommes. Et cependant, tout le monde sait très bien qu'on doit mépriser la mort pour être fidèle à Dieu et pour être fidèle à la vérité de Dieu, à la foi en Dieu, principalement la foi, mais pas seulement, tout ce que Dieu nous demande, évidemment, que cela produise du fruit ou que cela n'en produise pas. C'est-à-dire que si les adversaires de la religion profitent du martyr, ne savent pas profiter du martyr et continuent à persécuter, peu importe. On peut espérer que les chrétiens d'aujourd'hui connaissent assez leur catéchisme pour savoir que si on leur demande de marcher sur la croix, ils doivent répondre non, quitte à se faire couper la tête. Mais quand on leur demande d'être fidèles dans des choses moins claires, moins catégoriques, très facilement, ils trouvent toutes sortes de justifications, et la justification le plus souvent donnée, c'est l'utilité. Si je pose cet acte de fidélité que vous me demandez, je ne serai plus là pour m'occuper de mes enfants, le prêtre dira « je ne serai plus là pour m'occuper de mes fidèles, que va devenir l'Église, etc. etc. » Mais à ce moment-là, les évêques martyrs auraient dû dire, surtout les saints martyrs qui sont des hommes éminents, dont l'Église avait... non pas dont elle avait le plus besoin, parce qu'elle n'a besoin que de Dieu et l'Église, mais ceux qui rendaient le plus de service à l'Église auraient justement pu dire « l'Église a besoin de moi, il faut absolument que j'évite le martyr ». Alors oui, dans la mesure où ils le peuvent, ils se cachaient de manière à ne pas être martyrisés, mais lorsqu'ils sont pris, il n'y a plus à tergiverser, Et si on a une conception utilitariste de la force, à ce moment-là, on tombe dans ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que on fait le mal malgré soi, comme on dit. Je ne voulais pas, j'étais obligé. Vous vous rendez compte que ce dont je vous parle maintenant est très actuel. Dans les épreuves actuelles de l'Église, le bon Dieu nous demande essentiellement la fidélité. Et c'est parce que nous cherchons le résultat que nous nous éloignons de la fidélité. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne permet pas que la fidélité porte des résultats extérieurs, visibles et abondants. À d'autres moments, oui. Les persécutions des premiers siècles de l'Église ont duré 3 siècles pratiquement, c'est-à-dire pour nous, supposer qu'elles aient commencé en 1730, c'est-à-dire sous Louis XV. Et que les martyrs sous Louis XV, sous Louis XVI, sous Napoléon, tout le XIXe, tout le XXe, auraient subi le martyre sans voir les fruits de la belle chrétienté qui viendrait 3 siècles après. Je veux dire par là que ils ont subi le martyre pour être fidèles à Dieu, bien sûr. Le sang des martyrs a été une semence de chrétiens, c'est certain, mais on n'est pas martyr pour semer des chrétiens. On est martyr pour être fidèle à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés à un martyr que j'appellerais social. Le démon est très puissant, nos adversaires sont très puissants, et ils ne nous demandent pas le don de notre vie, il nous demande de sacrifier notre honneur, il nous demande l'honneur du monde, aux yeux du monde, bien entendu, pas le vrai honneur. Il nous demande de sacrifier nos biens, il nous demande de sacrifier notre confort, il demande de sacrifier notre vie sociale. Il faut lire le récit de la vie des chrétiens sous régime communiste, pour voir que si à certains Dieu demandait le sacrifice de la vie, à beaucoup il demandait le martyr social, d'être exclu de la société, de ne pas avoir le droit de travailler, ou bien des ingénieurs qui étaient réduits à être de simples balayeurs de rue, ou garçons de salle dans des hôpitaux. Un évêque, on a des cas d'évêques qui étaient garçons de salle dans des hôpitaux. Et aujourd'hui, nous sommes condamnés d'abord à être montrés du doigt, et le rapprochement de la fraternité Saint-Pilice avec l'Église moderne va faire de nous des parias. C'est-à-dire que le monde va dire des tradis, excusez-moi pour ce néologisme, je mets des gros guillemets, des tradis, des traditionnalistes, comme ceux de la fraternité Saint-Pilice, finalement, on en veut bien, puisqu'ils ne sont pas si coupés que cela de nous. Mais vous, vous êtes pire qu'eux, vous êtes intransigeants, et nous n'aurons aux yeux du monde aucune justification. Nous serons pires aux yeux du monde que n'étaient les tradis au moment des sacres, par exemple. La vertu de force est vue également par les libéraux, les mondains, sous l'angle de la magnificence, faire des grandes choses. Par exemple, c'est la vertu de force qui a édifié les cathédrales. On a su dépenser beaucoup d'argent pour la gloire de Dieu. Effectivement, c'est de la force. On ne va pas dire le contraire. Elle était pour la gloire de Dieu, bien sûr. On ne dira pas que ces choses-là ne sont pas des actes de force, mais ils ne sont pas les actes principaux de la force. Des actes beaucoup plus importants dans la force, c'est la magnanimité, par exemple. Vouloir des grandes choses, pas seulement construire matériellement, faire des grandes dépenses, vouloir des grandes choses. Mais là encore, il est facile de se tromper. La magnanimité ne consiste pas à conquérir des territoires entiers à la fois. La magnanimité, bien sûr, c'est de la magnanimité, ça. Mais c'est pas ça, la définition. La magnanimité porte sur l'honneur. Nous avons vu cela à propos de la vertu de justice. Mais dans la vertu de justice, nous rendions honneur aux autres, à autrui, qui étaient dignes d'honneur. Nous reconnaissions l'honneur chez autrui. Et nous avons vu que l'honneur venait de la vertu et que l'honneur est le témoignage de l'excellence de la vertu. Eh bien, maintenant, dans la vertu de force, il ne s'agit plus de l'honneur des autres, il s'agit de notre honneur. Et notre honneur est dans notre vertu. Nous devons à nous-mêmes la fidélité à notre propre vertu, que cette vertu soit efficace ou qu'elle ne le soit pas, qu'elle produise des grandes choses ou qu'elle ne les produise pas, et qu'elle conquiert des territoires entiers à la fois ou qu'elle ne les conquiert pas. Le mot « honneur », je vous l'ai dit, est un mot qui pratiquement n'a plus de signification chez nos contemporains. À quoi ça sert de lutter pour l'honneur ? Ça sert à rien. Donc, si ça sert à rien, on ne le fait pas. Mais qu'on arrête de justifier les choses en fonction du service qu'elles rendent. La vertu de force nous fait pas moins que mépriser la terre. Notre Seigneur, dans l'Évangile, nous demande de mépriser le monde d'ici-bas. Déjà parce que c'est un monde pécheur, mais même s'il n'était pas pécheur, enfin, imaginez-vous, Adam et Ève, au paradis terrestre, se complaisant dans les bonheurs d'ici-bas et négligeant les bonheurs du ciel. Cette complaisance dans les bonheurs d'ici-bas vous donne des réalisations comme le barou, par exemple, dans lequel on fait des belles œuvres, on reproduit des œuvres romanes, on refait des monastères ou des abbayes comme à la chrétienté du XIIe siècle. Mais c'est pas cela l'honneur. C'est pas cela la fidélité à Dieu. Là, on se complaît dans une vaine gloire. Et saint Thomas d'Aquin dit bien que la vaine gloire est complètement à l'opposé de la magnanimité. La magnanimité, c'est d'apprécier, d'être fidèle à la qualité de la vertu pour Dieu. On méprise tout ce qui est ici-bas. Bien sûr, il peut y avoir dans la force de la raideur, mais ça, on peut le retrouver partout. Des principes mal appliqués, parce que la prudence n'est pas là. On peut être un enragé, comme les cédévacantistes, qui sous prétexte de fidélité sont en réalité des enragés. Mais le problème des cédévacantistes est beaucoup plus dans la prudence. Il peut y avoir de la raideur dans la pratique de la justice, il peut y avoir de la raideur dans la pratique de la force, comme il peut y avoir de la raideur dans la pratique de la tempérance. Et puis évidemment, ça n'est plus ni de la justice, ni de la force, ni de la tempérance. Mais c'est pas parce qu'il peut y avoir un excès, une déformation de la vertu, que cela doit fausser la notion de la vertu. Encore une fois, le martyr nous montre un idéal. Nous devrions tous avoir une mentalité de martyr, même si nous ne sommes pas martyrs. Les qualités qui vont avec la force, c'est la patience et la persévérance. Saint Thomas d'Aquin dit qu'il est beaucoup plus difficile de supporter que d'attaquer. Et dans la vertu de force, il y a l'attaque, on attaque le mal, quand c'est nécessaire. Par exemple, cette femme dont je vous ai raconté le récit de la mort sur mon site a attaqué le mal. Elle a dit non, elle a refusé catégoriquement. Et puis elle a été tuée. Mais vous avez également de supporter les difficultés sans faiblir. Et vous pouvez lire là le livre de Rose Hue, Méprisant de Chine avec Dieu, ou bien, encore une fois, je vous en ai déjà parlé, mais Dieu sait si c'est important, le livre d'Alagiani, Ni la mort ni la vie. Vous avez des martyrs qui sont restés des années, des années, des dizaines d'années à supporter le mal sans rien pouvoir faire que d'être fidèle à Dieu au milieu d'épreuves terribles qu'il ne pouvait pas soulager. Et cela, évidemment, est beaucoup plus difficile. Et il est beaucoup plus difficile dans les épreuves actuelles de l'Église de les supporter, d'admettre que Dieu nous a placés dans ces épreuves et que nous n'y pouvons rien, que ce qu'il nous demande, ce n'est pas de rejeter les épreuves, ce n'est pas de renvoyer la couverture pour sauter du lit à l'attaque du mal. Non. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle à lui au milieu de ses épreuves. Et je vous rappelle que épreuve vient du mot preuve. L'épreuve fait la preuve. Elle fait la preuve de notre fidélité. La vertu de prudence vous montrera lorsque la fidélité doit être active et conquérir des territoires à Dieu, et lorsqu'elle doit être passive, c'est-à-dire accepter les peines pour Dieu. Et la persévérance, c'est la patience qui est poursuivie jusqu'au bout. Le saint Thomas d'Aquin, je terminerai là-dessus, étudie le don de force, le don du Saint-Esprit, et il dit très peu de choses sur le don du Saint-Esprit. Il dit que la force humaine, tout en étant suffisante, n'est quand même pas tout à fait suffisante, si je puis dire, pour nous faire gagner le ciel, mépriser le monde et gagner le ciel, et que nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne les choses en main. Je ne vais pas m'étendre sur le don du Saint-Esprit parce que la théorie des dons du Saint-Esprit, la doctrine, parce que ce sermon, j'arrive à la limite. Mais le fait que saint Thomas nous parle du don de force et si brièvement nous montre qu'en réalité, le don de force a pour but d'élever notre force au-dessus de la force humaine, au-dessus de la force militaire, au-dessus de la force de celui qui serre les dents, au-dessus de toutes les forces auxquelles nous pensons lorsque nous disons à un enfant, sois un homme, sois fort, sois un homme. Le don du Saint-Esprit vient nous montrer que la vertu de force nous fait regarder Dieu et la fidélité à Dieu sans nous occuper du reste. Demandez à la Sainte Vierge le don de force, parce que Dieu sait si elle en a fait preuve. Et vous verrez que chez la Sainte Vierge, le don de force est essentiellement un don de fidélité. La Sainte Vierge n'est pas Charlemagne. Elle n'est pas un grand missionnaire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait un grand don de force et qui était très magnanime, aurait aimé être docteur pour enseigner, docteur de l'Église, prêtre pour convertir, célébrer la messe, missionnaire pour ramener les âmes à Dieu. Et elle s'est rendue compte que c'était là chercher dans des mauvaises directions, et elle découvre que la force qui lui est demandée, c'est d'être fidèle à l'amour de Dieu. Certainement, la contemplation de la force de la Sainte Vierge nous montre ce qu'est la force du chrétien. Demandez cela à la Sainte Vierge. Nous verrons la prochaine fois comment on obtient la vertu de force et le don de force au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.